Us, pour trafiquer la voie et mettre de la braque.
J'ai enfin compris. Vous n'êtes pas un charlatan. Vous êtes un génie.
Faut pas aller non plus aller trop loin.
Radio Campus, il est où l'émetteur ?
Radio Campus, 88.3.
C'est la fréquence.
Non, je les aime pas.
Écoute ta fac.
Écoute ta fac. Tous les jours, de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire, celle-là ?
Et bonjour à tous, nous sommes le 19 octobre, il est 12h dans Radio Campus Orléans. Nous sommes dans Écoute ta fac. Aujourd'hui, au programme, nous avons une petite chronique présentée par Louane, qui va parler essentiellement... de choses qui se passent dans les environs, donc des problèmes qu'on a eu avec des attentats et autres. Je vais vous laisser Louane en parler. Et nous avons également, après tout ça, une petite interview de Planète Claire, présentée par Lucas évidemment. Je vais vous présenter une petite musique du nom de It's Amazing d'Opofert Hadron Matrix version par Lucie Autune. Bonne écoute sur Écoute ta fac.
I want to ring the bell. I want to ring the bell. I want to ring the bell.
Amazing, isn't it?
C'était It's Amazing de Doppler, de Lucie Etune, pardon. Et maintenant, nous avons la chronique de Louane. Non, c'est pas Louane,
c'est Luna.
Luna, pardon. Excuse-moi, j'ai confondu.
Pas de problème.
Je te laisse présenter la chronique, du coup.
Depuis l'attaque d'Arras survenue vendredi 13 octobre qui a provoqué le décès d'un enseignant dans un collège de la ville, on assiste depuis ce début de semaine à de nombreuses rumeurs d'alerte terroriste partout en France. Hier, les aéroports de Lille, de Toulouse, de Nantes ou encore de Strasbourg ont été évacués à la suite d'une suspicion d'alerte à la bombe ou de mails malveillants selon les autorités. Le trafic n'a pu reprendre que seulement quelques heures après. De nombreuses fausses alertes se répandent dans les aéroports comme dans les écoles. Un lycée du 20e arrondissement de Paris en a lui aussi fait les frais après la rumeur d'une attaque à la machette qui s'est révélée être un canular malgré l'important dispositif mis en place par la police. Une évacuation a eu même lieu hier au château de Versailles après une alerte à la bombe. Pour l'instant, rien de concret depuis l'attaque à Arras de vendredi, mais il n'y a pas qu'en France que des attentats ont lieu. En Belgique, ce mardi, un homme a tué deux personnes dans la ville de Bruxelles avant d'être abattu. C'est dans cette période de tension que le gouvernement français a adopté la mise en place du dernier palier du plan Vigipirate au stade d'urgence attentat. Ce niveau permet de renforcement des dispositifs de sécurité sur tout le territoire pour faire face à de possibles attaques terroristes. Un autre dispositif voudrait être adopté par le gouvernement, c'est le projet de loi sur l'immigration qui refait parler de lui avec l'actualité. Pour Sacha Houlier, président de la commission des lois et député Renaissance, ce texte pourrait être une réponse miracle face aux problèmes de sécurité dans le pays. Mais que dit ce projet de loi sur l'immigration ? Elle aurait pour but, je cite, de contrôler l'immigration et d'améliorer l'intégration. Mais comment elle y arrive ? Eh bien, notamment en excluant purement et simplement du territoire français les étrangers considérés comme délinquants. La création d'un titre de séjour serait mise sur la table pour les métiers en tension afin de pallier les manques de main-d'œuvre dans certains secteurs. La loi fait aussi porter non plus de 3 mais de 18 mois la durée maximale de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière, situation dont était l'assaillant de l'attaque Arras lui-même fiché S. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, compte profiter de ce contexte pour mettre en lumière ce projet de loi. Mais ces mesures, eh bien, elles ne font pas l'unanimité. La gauche reproche à ce projet d'être trop dur et restrictif. Elle a appelé à de nombreuses fois des manifestations pour contester ce texte qui, selon elle, détériore les droits humains. Mais pour la droite, cette loi paraît trop souple et pas assez aboutie. LR a même demandé au gouvernement de mettre en place un référendum et une révision de la Constitution sur l'immigration. Mais la majorité présidentielle espère bien rallier les deux camps dans un contexte d'état d'urgence attentat dans lequel la France est. Notons que le texte sera prochainement débattu le 6 novembre au Sénat et que rien n'est encore joué.
Merci pour cette chronique intéressante autour de ça. Est-ce que tu l'as écrite toute seule, cette chronique ?
Oui, je l'ai écrit hier. En voyant l'actualité qui était devant moi un petit peu en crise, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler.
Effectivement, pour les auditeurs qui nous écoutent sur Radio Campus, peut-être intéressant de prendre des nouvelles, parce que je pense que je ne suis pas le seul à ne pas regarder fréquemment les informations, mais je suppose qu'il y a plein d'autres gens qui ne le font pas. Et puis ça peut être intéressant de découvrir tout ça, faire un peu plus d'attention là où on va.
Exactement.
Je te remercie du coup, Luna, d'avoir présenté cette chronique. Est-ce que les personnes avec nous veulent rajouter un mot ou pas ? Non, aucun mot. Très bien. Bah, merci beaucoup, Luna. Nous, sur Radio Campus, nous allons enchaîner avec Le goût de ça de Cindy Push. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Radio Campus.
Ah.
ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là.
Et rebonjour à tous et à toutes, il est 12h21 sur Radio Campus dans Écoute ta fac. Et maintenant nous allons passer à l'interview de Roger, le desquaire de Planète Claire, qui nous parlera du salon du disque et de la BD qui aura bien lieu dimanche 22, le dimanche à l'Onisson, la salle des fêtes à Saint-Jean-de-la-Ruelle, tout de suite sur Radio Campus Orléans.
Roger, merci de m'accueillir dans ta boutique.
De rien,
pour
avec
cette
plaisir.
Interview qu'on va parler du salon, surtout.
Voilà.
Et puis, je voudrais commencer parce que nous, on se connaît déjà depuis quelques temps.
Oui.
Je viens depuis quelques années, peut-être. Et au fil du temps, les connaissances font qu'on se parle un peu plus.
Et, ben voilà, oui.
Et du coup, mais pour ceux qui ne connaissent pas et les auditeurs qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu peux me parler déjà un peu de toi, de ton histoire, de l'histoire de la boutique? Comment tout ça est né? Comment toi, comment tu es arrivé dans le monde du disque, du vinyle, etc.
Oh, bah ça, c'est parce qu'on aime la musique hein, depuis l'âge de 13-14 ans. Et après, de fil en aiguille, les rencontres, un premier boulot qui n'a rien à voir, mais bon... permet de manger, d'aller voir les concerts. Et puis après, ben, avec les rencontres, je suis devenu aussi maquettiste sur pochette de disques et revue pour collectionneur de disques. Et puis après, ben, avec l'histoire, j'ai voulu avoir ma boutique de disques pour partager encore plus en direct avec les clients, quoi.
Ouais, parce que ça fait, du coup, on disait juste avant, ça fait 30 ans
32 ans que je vais avoir ma boutique. Là.
32 ans, donc ça fait quand même pas mal de rencontres, pas mal d'histoires,
oui,
surtout,
oui,
qui se créent. Est-ce que ça a tout de suite été facile?
Non.
De monter une boutique de disques
Ouvrir, c'est facile.
Ouais.
Tenir, c'est plus difficile. C'est juste ça. Mais bon, bah après, c'est un grand jeu de patience. Et, voilà. Et puis quand on aime ça, on veut toujours plus de disques, plus fournir. Voilà, plus encore toujours faire plaisir aux clients. Ouais. Oui.
Ouais, dès le début, il y a eu cet attachement quand même de clientèle qui voulait des disques, etc. Et que, une sorte de satisfaction de donner ce qu'ils voulaient. Ou...
Ah oui, j'aime bien fournir, essayer de trouver ce que les gens cherchent depuis des fois plusieurs années. Et bon, ben, faut être très patient. Et en plus, moi, il faut que j'aille la patience de tout le monde de réussir à récupérer et pour fournir aux clients, quoi.
Alors, ouais, parce que surtout de monde que tu vois passer dans la boutique, etc., y a forcément, comme je disais tout à l'heure, des histoires qui se créent. Est-ce que, puis là, après, on parlera plutôt du salon, est-ce que tu as de belles histoires à nous raconter sur, justement, cette boutique
Ah, ben, par exemple, par rapport au salon... Ici, j'ai des clients qui venaient régulièrement toutes les semaines. Et puis dans ces clients-là, j'en avais le jeudi midi qui venait. Et dans les deux qui venaient, bah, y en a un, c'est mon associé pour organiser le salon du disque.
Alors que tu ne le connais pas depuis...
Depuis 30 ans maintenant.
Ah oui, donc c'est quand même... Oui. Je pensais que c'était là ces dernières années.
Non. Mais c'est la rencontre grâce à la boutique, quoi. Ah. Oui, oui.
Et justement, on va passer tout de suite au salon. Donc, qui est-ce tout simplement combien de d'éditions on en est
la mienne, moi c'est la 10e que j'organise là, mais sinon sur Orléans, en gros, ça doit faire 37e salon du disque. Voilà, tout confondu édition.
Oui, parce que là, on le rappelle, c'est organisé à Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Oui.
Mais ça a bougé, ça a eu beaucoup
de
lieux quand même.
Avant, il y a eu au Chapiteau. Avant, c'était au Hall de Prestige, au Parc Expo. Et avant, il y en a eu une. C'était... Il y a eu pavillon panoramique à la patinoire, à la salle des Carmes, au sous-sol que c'est devenu du judo. Et la toute première Orléans, c'était dans la discothèque Le Zigzag à Olivet, qui est un lieu mythique pour tous les gens qui ont vu des concerts là-bas, quoi.
Et qui, moi, n'est pas connu.
Oui. Et ça, c'est la première, ça doit être en 1986, je pense.
Ah oui, alors moi, j'étais même pas dans les idées de mes parents.
Voilà.
Comment l'idée est née, justement, de ce salon de disques de...
Ben, le tout premier, c'est moi qui ai un peu poussé ici, parce que j'avais des amis ici à Orléans, et comme à l'époque, le vinyle, tout ça, les gens cherchaient plein de choses, il y avait des boutiques encore, mais pas tant que ça. Et l'idée, parce que sur Paris, ça a existé la première en 85, ou 85. Et du coup, après, moi, je voyais que ça prenait et je me suis dit, pourquoi pas Orléans ? Donc, j'ai poussé mes amis à organiser ici, sur Orléans. Après, eux, ils ont été dépassés par quelqu'un d'autre qui a fait la première au Parc Expo en 93. Et puis, quand la personne qui organisait celle-là est décédée il y a 10 ans, j'ai décidé de reprendre celle d'Orléans.
Donc, il y a eu une sorte de pause sur les salons ou c'est toi qui as suivi directement le...
J'ai suivi, il n'y a qu'en 2013, elle n'a pas eu lieu parce que la personne qui est décédée, fallait le temps de recaler. On n'avait pas le temps en 2013. Donc, elle a été reprise dès 2014 par moi, quoi.
Mais ouais, c'est une idée que tu as eue tout de suite de dire, on ne peut pas laisser...
Il existait quand même un beau salon, fallait que ça perdure, hein. C'était important, puis en plus ça a commencé, il y a presque 10 ans, nous, le retour vinyle, ça a commencé à être important, quoi. C'est plus important depuis 4-5 ans, mais donc c'était intéressant de refaire bouger des disques, et puis en CD, il y a des choses qui sont cherchées aussi, qui sont plus éditées, donc tout le monde dit disque, que ça soit CD ou vinyle, c'est hyper important que ça existe.
Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, tu sens un engouement qui revient sur justement
un engouement sur l'objet, je dirais.
Oui, voilà.
C'est la revanche du virtuel par rapport à l'objet réel, quoi.
Et dans la fréquentation des salons, est-ce que tu vois une génération plus jeune, comme la mienne par exemple, qui est plus présente?
Ouais, j'ai toujours fait qu'il y ait des jeunes qui se renouvellent. Ça, j'aime bien. Faut pas de trous, faut que ça continue, faut que ça perdure. Ouais.
Mais il y a une pluralité de générations qui est très présente, parce que moi, j'en ai déjà fait plusieurs.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a une certaine génération un peu plus âgée que la mienne qui est très présente, mais... Ça me fait rire de voir des jeunes qui sont là, pas du tout pour les mêmes raisons de disques.
Oui.
Qui sont là pour des disques plus récents, qui sont là pour des...
Même dans les récents, il y a des choses qu'on trouve déjà plus dans les réseaux habituels, quoi. Donc le salon du disque est une occasion de retrouver des fois des choses qui sont plus disponibles.
Ouais. Et puis oui, surtout les jeunes qui veulent découvrir d'autres... génération d'artistes, donc je sais pas, les Beatles, les Rolling Stones.
Ah ben oui.
Et c'est toujours très cool de fouiller dans les bacs.
C'est un lieu de rencontre, justement. Il y a des gens, comme on dirait, de 7 à 70 ans dans ces salons-là. Non, c'est bien.
Et oui, du coup, tu disais un peu partout. Il y a des. Donc c'est quand même des gens qui viennent de toute la France.
Bah, ça vient de loin, oui, en exposant déjà et puis en visiteur. Dans un rayon 150, 200 km. Moi, j'ai vu des gens de Lille venir exprès. Bon, ça vient Le Mans, Rouen. Ouais, il y a même des fois, allez hop, ils font une voiture entière. Ils arrivent de Limoges. Parce qu'ils savent qu'à Orléans, on produit un beau salon du disque et bande dessinée.
Voilà, c'est ça, c'est un engouement qui est assez. Qui est quand même local, mais qui arrive à s'exporter un peu plus loin que.
Ah oui! Oui, parce que ça existe quand même dans beaucoup d'endroits, hein. Le disque, c'est important. Mais Orléans, ils savent que c'est un endroit où important, quoi. Il y a quand même 1000 mètres carrés de matériel.
Et justement, tu parlais de chiffres. Combien il y a d'exposants à peu près là, cette année?
Une bonne trentaine.
Bonne trentaine qui remplit justement ces 1000 mètres carrés.
Largement, oui. Ouais.
Parce que, comme je disais.
C'est la bagarre pour avoir de la place.
Oui, c'est ce qu'on a. On en a déjà parlé de, d'exposants qui remplissent remplissent vite l'espace comblé et qui permettent d'avoir un très beau salon.
Ouais.
Et justement, entre ces vendeurs et ces exposants, est-ce que c'est que de la vente ou il y a quand même de l'échange ?
C'est beaucoup de la vente. Après, il y a des fois un petit peu d'échange, mais bon, on se promène pas trop avec ces disques, quoi. On vient en chercher beaucoup plus que... Oui,
c'est
surtout on est demandeur, que ce soit disque ou bande dessinée aussi.
Oui, d'ailleurs. C'est pour chiner, surtout.
Oui,
fouiller.
Pour acquérir ce qui nous manque. C'est ça en premier, quoi.
Est-ce qu'il y a une... C'est un chiffre que tu sais peut-être pas, je ne sais pas, mais... s'il y a beaucoup de gens qui viennent là par hasard dans ce salon et qui repartent quand même avec quelque chose en se disant
il n'y a pas trop de hasard les gens ça peut arriver avec une affiche vue en ville sur les abribus, des choses comme ça un peu dernière minute le dimanche matin tiens cet après-midi on va aller peut-être qu'on trouvera ce qu'on cherche on dit bande dessinée c'est le moment quoi.
Oui, parce qu'on le rappelle, c'est pas que du disque, c'est aussi de la bande dessinée.
Ouais.
Est-ce que ça, cette liaison entre BD et disque s'est tout de suite faite sur les premières éditions ?
Ah oui, depuis toujours, ouais. Même avant que j'organise moi, il y avait déjà de la bande dessinée avec.
Mais quel lien tu trouves, toi, entre les disques et la BD, à part l'objet ?
Moi, par exemple, dans les années 70... Il y avait des gens comme Gottlieb qui étaient très musicaux. Alors, il y avait un rapport, évidemment, avec ce qu'on écoutait. Et il y a beaucoup de filiations. Après, des fois, on est obligé de faire un choix. On ne peut pas tout acheter. Mais moi, j'ai gardé mes BD de cette époque-là. Oui,
il y a quand même un truc toujours d'époque. L'objet et le
sentimental. Le dessin, ça a presque un rapport avec les pochettes de disques. Tout ça, c'est... Il y a un lien, quoi.
Donc, ouais, ça est très, très, très lié, quoi.
Oui.
Pour finir, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu aurais, un, deux, trois titres qu'il faudrait absolument écouter en rapport avec l'histoire du disque ou alors juste tes recommandations personnelles de ta propre histoire
non, On peut venir chercher un bon vieux Elvis Presley avec Jealous Rock. On peut toujours chercher les Rolling Stones avec Satisfaction. On peut tout aussi bien aussi chercher un Angel récemment. C'est tellement divers. Oui,
parce qu'il y a aussi tous les genres de disques qui sont trouvables.
Ouais. Rock, New Wave, chansons françaises. Oui. Musique du monde aussi. C'est important ça.
Faut pas oublier.
Voilà.
Ok, et merci d'avoir répondu à ces quelques questions et d'avoir parlé du coup de ce salon du disque et de BD.
Voilà.
Nous sommes toujours sur Radio Campus Orléans, il est 12h34. Et merci à Lucas d'avoir fait l'interview. Je vous rappelle évidemment que le salon du disque et de la BD qui aura bien lieu le dimanche 22. À l'Unesson dans la salle des fêtes qui se déroule à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Tout de suite, nous allons passer sur un peu de musique. Stand Up de Quantique. Bonne écoute sur Radio Campus. Stand up. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Campus Orléans et à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes toujours sur Écoute ta fac. Il est 12h44 et à ce moment précis, je vais vous présenter une petite chronique présentée par ma part de quelque chose ou quelqu'un qui vient des SCP. Oui, je vais vous présenter la fondation SCP. Mais un SCP en particulier, SCP-076. Je vais vous présenter du meilleur que je peux. Et nous commençons l'histoire dès à présent. SCP-076 comprend deux éléments. Un cube en pierre, donc SCP-076-1, et une entité humanoïde contenue à l'intérieur, SCP-076-2. SCP-076-1 est un cube de 3 mètres, conçu en roche métamorphique, tacheté de trous. Toute la surface externe et interne de SCP-076-1 est couverte de profonds motifs ciselés ne correspondant à aucune civilisation connue. Une analyse au radioisotope montre que l'objet est âgé d'environ 10 000 ans. Une porte est située sur un des flancs, scellée avec une serrure de 0,5 mètres de large et entourée de façon circulaire par 20 autres serrures plus petites que les unes que les autres. À ce jour, aucune clé n'a été découverte, rendant la porte impossible à verrouiller une fois close. La température intérieure est d'environ moins 180 degrés, 93 Kelvin, et ne peut être altérée par aucun moyen interne ou externe. Immédiatement, au centre de la pièce, se trouve un cercueil en pierre mesurant 2,13 mètres, maintenu à sa place et fermé hermétiquement par de nombreuses chaînes de factures et de manières inconnues. Celles-ci sont attachées aux angles intérieurs de SCP-076-1. 076-2 ressemble à un mâle humain, mince et d'origine sémite. Approchant de la trentaine, ses cheveux sont noirs, les yeux gris, la peau possède un ton olive. Le sujet mesure 1,96 m et pèse 81,65 kg. De nombreux tatouages représentent une iconographie occulte et des ésotérites sont présents sur tout son corps, la plupart sous forme de démons à visage grinçant, et varie de subtil à ouvertement ostentatoire. Le sujet est techniquement mort lorsqu'il est enfermé dans SCP-076-1. Cependant, quand SCP-076-2 se réveille, régulièrement, en parvenant à ressusciter, peu importe le moyen, possédant alors tous les processus vitaux qu'un être humain requiert pour vivre, s'il parvient à s'échapper, le sujet rentrera dans un état de transe, de colère, et traquera les êtres les plus proches, tout en ignorant les autres formes de vie. En arrivant en contact d'êtres humains, SCP-076-2 entre alors dans un état de fureur dans lequel il essaie de tuer tous les êtres humains qu'il rencontre. À ce jour, seule la mort du sujet a prouvé son efficacité pour mettre fin à ces déchaînements de violence. Stopper SCP-076-2 est souvent problématique en raison de ses importantes capacités physiques. Le sujet possède une force et une vitesse surhumaine, et bien qu'il ne soit pas invulnérable, il fait preuve d'une remarquable faculté à ignorer la douleur et les coups, poursuivant ses actions en dépit de blessures invalidantes pour un être humain ordinaire. Les accrochages précédents avec SCP-076-2 ont montré qu'il avait des compétences, entre autres, pour passer à travers une porte de sécurité en acier renforcée après 4 minutes d'attaque soutenue, parcourir plus de 64 mètres en moins de 3 secondes, recevoir de nombreuses balles de calibre 0,50 BMG dans la tête et survivre plusieurs minutes en continuant à tuer malgré de graves dommages au cervelet, écraser des balles de fusil d'assaut et d'armes de poing en plein air avec juste une barre d'acier, survivre plus d'une heure en étant privé d'oxygène avant finalement s'asphyxier. La capacité la plus inhabituelle de SCP-076-2 est cependant sa faculté à matérialiser des armes blanches à première vue de nulle part. Une séquence vidéo au ralenti révèle que ces armes en question sont sorties de petites failles, on ignore réellement où mènent ces portails. SCP 0,76-2 a été efficacement tué à plusieurs fois et de façon différente. Sous le feu nourri de plusieurs mitrailleuses de calibre lourd, par asphyxie, écrasé sous un morceau d'appareillage d'ascenseur de 13,6 tonnes métriques utilisé à l'origine pour SCP 0,76-1, incinéré par l'utilisation de grenades thermiques placées directement dans la cavité thoracique ouverte de SCP 0,76-2. Lors de la pire brèche de confinement survenue jusqu'ici, la zone de confinement 25, qui a accueilli précédemment SCP 0,77, fut contrainte de déclencher sa tête nucléaire présente sur le site comme dernier recours au cours de la tentative d'évasion, aboutissant à la destruction totale du site et du personnel. SCP 0,76-1 a survécu. À sa mort, les restes de SCP 76-2 se putréfient rapidement, jusqu'à n'être plus qu'un tas de poussière. SCP 0,76-1 et le cercueil qui contient se referme alors avec force et le verrou pivote. En le scellant hermétiquement, SCP 0,76-2 se régénère alors à l'intérieur du cercueil. Un procédé qui peut prendre entre 6 heures jusqu'à 25 ans. Les analyses post-mortem de SCP 0,76-2 existantes montrent qu'il possède un système interne grandement différent du genre humain, documenté dans des documents impossibles à trouver actuellement. SCP 0,76 fut découvert en Mongolie par des archéologues français. Tous les membres de l'expédition furent par la suite tués lors du voyage retour. SCP 0,76 fut récupéré dans le bateau par la société de collation mondiale occulte et placé en vitrine dans leur sanctuaire intérieur. SCP est resté entreposé pendant des dizaines d'années jusqu'à ce que SCP 0,76-2 devienne actif et s'échappe en tuant tout le personnel qui était présent dans l'endroit en question. Le sujet fut emprisonné pendant 3 années supplémentaires sous surveillance constante et stoppé à chaque fois qu'il devenait actif. Bien qu'occasionnellement, il parvient à s'échapper pendant de courtes périodes, souvent en raison de brèches de sécurité causées par des attaques venant d'autres organisations. Le nombre de membres de la fondation attribuable à ces attaques était d'environ des milliers et des milliers. Pour progresser à sa méthode de confinement, la zone doit être située à 200 mètres sous le niveau de la mer, dans une région sismique stable et creusée dans un soubassement solide. L'unique accès à l'installation de confinement doit se faire par une cage ascenseur, séparée toutes les 50 mètres par des portes anti-explosion renforcées et équipées d'un blindage de 20 cm de titane. Un poste de sécurité est situé à l'entrée de ce couloir de la mort, et doit être doté de pas moins de 3 membres de personnel armé, et ceci doit être de garde en permanence. Son armement doit intégrer sans illimiter au moins un système de tourelles monté sur des pivots et ayant parfaite ligne vue sur le couloir où est confiné SCP 0,76, ainsi qu'un écran de protection plexiglas pour protéger les gardes des armes de lancer. Dans l'éventualité où une brèche de confinement totale, tout le personnel présent sur le site doit se rendre au poste de sécurité le plus proche pour une répartition des armes et des équipements de protection. Le personnel restera en état d'alerte jusqu'à ce que SCP 0,76-2 soit confiné comme étant neutralisé. Si 80 minutes s'écoulent après l'annonce d'une brèche totale, le confinement exécute un ordre de fin. L'alerte soit donnée par un membre du personnel de niveau 4 ou plus, mesurant la gravité de la situation, et malheureusement, si cela ne s'arrête pas jusqu'aux 24 heures, alors le site doit disparaître. Merci d'avoir écouté ma petite légende des SCP avec moi. Il est 54 sur Radio Campus Orléans. Nous sommes toujours dans Écoute ta fac. Et nous allons écouter ensemble Mazdaz de Nicolas Albrock tout de suite sur Radio Campus.
Get your foot in the door. 4:42 p.m. We stalked the asphalt, staring up as an 8-ton Jesus rode through a green Mazda. Got me thinking of Nuz's big work boots crushing tins for the recycling, with a boom that shook the deck. Cans jingle into the yellow-topped wheelie bin. Police stood around in raincoats, so fine it's almost mist. The defogger is fucked, and we're all getting old. That was plain as the barely rain. As the barely rain.
Mazda de Nicolas. Et maintenant nous allons passer au programme de la journée. Il est toujours 12h57, on est toujours sur Radio Campus dans Écoute ta fac. Au programme après Écoute ta fac, il y aura de 14h à 15h Polémix et la voix off, suivi du Moulin à parole. De 17h à 18h il y aura le Mac culturel, suivi de l'art qui parle de notre temps. Et pour finir la soirée, nous aurons de 20h à 22h Daryl Kicking, Funk Steer, et suivi de Nation Groove jusqu'à minuit sur Radio Campus Orléans. Nous allons maintenant écouter un petit bout de Yes Kirusa de Black Body. Merci à toutes et tous d'avoir suivi Écoute ta fac. Bonne écoute sur Radio Campus Orléans.